Bonsoir tout le monde et bienvenue au soccer de l'Impact de Montréal en direct du Stade Saputo ce soir. L'Impact reçoit la visite du Fire de Chicago et de Bastian Schweinsteiger. Mon nom c'est Jérémy Filosa et à mes côtés l'analyste pour le match aujourd'hui, Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio!
Salut Philo, bonsoir chers amis.
Arcadio, écoutez, ça a été une semaine où, bon, l'Impact n'a pas joué en milieu de semaine, mais c'est pas l'actualité qui a manqué. Les rumeurs, des nouvelles, des nouveaux joueurs qui arrivent avec l'équipe. En fait, ça fait déjà deux semaines qu'on n'a pas fait de match en ondes, donc ça fait, on dirait que ça fait une éternité là, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, on va avoir le temps de décanter tout cela. Maintenant, le match va débuter dans une heure approximativement. Commençons tout de suite avec le 11 partant pour le match de ce soir, Arcadio. Peut-être des petits commentaires là-dessus. C'est la formation que l'on voit normalement chez l'Impact de Montréal, sauf que Bakary Sagna est là comme défenseur latéral droit, comme partant dans ce match, donc dans le 11 partant. Je dois dire que ça me surprend un petit peu. Je m'attendais à le voir sur le terrain puisque Rémi Garde, la façon dont il en a parlé depuis le début de la semaine, disait que l'homme était en santé, en forme et tout cela. C'est quand même un gars qui n'a pas joué depuis le printemps dernier, mais là, de le voir dans le 11 partant, c'est quand même c'est assez rapide. On va espérer qu'il n'y ait pas de blessure ou quoi que ce soit dans son cas et qu'il puisse contribuer immédiatement, là.
Ouais, au niveau physique, je suis pas inquiet pour lui. C'est sûr que bon, une malchance peut arriver là à tout moment, mais je pense pas que ce serait une question d'avoir précipité son entrée en action. Ceci étant dit, faut comprendre aussi qu'à la position de latéral droit, c'est peut-être une des positions avec évidemment celle d'attaquant où l'Impact avait disons un manque de qualité le plus flagrant. Et l'arrivée de Sagna ben va faire le plus grand bien de ce côté-là. Je pense que même Sagna à 70%, pas nécessairement de ses capacités physiques parce que comme on l'a vu tout au long de la semaine d'entraînement, il semble être en très bonne forme, mais 70% disons d'entente avec ses nouveaux coéquipiers, de reconnaissance de la ligue, ainsi de suite, reste meilleur que qu'est-ce qu'on a sous la main en ce moment avec peut-être Michael Petrasso ou un Chris Duval qui revient de blessure.
Exact.
Et aussi un pauvre Juhar Aitala qui joue hors position plus souvent qu'autrement, donc de ce côté-là, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise. Je ne suis pas très surpris non plus de voir Sagna sur le 11 partant et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va amener à l'Impact de Montréal des deux côtés du terrain parce que ça va être un apport vraiment bilatéral autant défensivement qu'offensivement qu'est-ce que Sagna va apporter.
Donc, tu viens de le mentionner, Chris Duval revient dans la formation. Il est sur le banc pour aujourd'hui. Il est dans les 18, lui qui a raté, ça fait un mois qu'on ne l'a pas vu approximativement. Et dans le cas de Michael Petrasso, il n'est pas habillé. On revient toujours à ce fameux problème-là où Petrasso n'est pas dans les 18 et il n'y a pas vraiment de place pour lui non plus pour continuer de garder la forme et jouer, malheureusement. Donc, ça, on en a parlé assez souvent. Matteo Mancosu est dans le 11 partant, encore une fois, ce soir. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui probablement diront « Pourquoi pas donner une chance à Quincy Amerikwa qui arrive dans cette transaction avec les Earthquakes de San Jose. Dominic Oduro prend le chemin inverse. Bon, écoutez, Quincy a quand même démontré de belles choses la semaine dernière. Deux tirs, dont un cadré. Il y en avait un là-dedans qui était sur un corner où il a été capable de gagner ce ballon de la tête. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce qui motive Rémi Garde de dire je vais continuer et persister avec Matteo Mancosu, même si c'est compliqué. Là. Écoutez, plus de 1000 minutes de jeu, seulement 5 tirs cadrés. Là. C'est extrêmement mince.
Ouais, il y a clairement un blocage là, psychologique par rapport à Matteo Mancosu. On sait que les attaquants, c'est des bêtes qui fonctionnent avec des séquences. C'est des gens aussi dont la confiance fait foi de tout. Et Mancosu, qui n'est clairement pas en confiance depuis le début de la saison, n'arrive même pas à tirer au but.
Non, c'est ça.
Sans dire long. Je pense que Rémi Garde garde espoir, sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense que Rémi Garde, face à une équipe qui en arrache en ce moment, comme le Fire, à la maison, une équipe qui concède beaucoup de buts, je pense qu'il se dit c'est peut-être l'occasion de relancer un attaquant. Parce que si, on en parlait tout à l'heure, Philo, si jamais Mancosu connaît un bon match, disons ce soir, il marque deux buts,
oui.
Ça va bien ensuite à l'entraînement, reprend un petit peu, retrouve le plaisir de jouer, retrouve ses repères, ses marques. C'est pas long qu'un attaquant est capable de revenir dans les bonnes grâces. C'est comme le vélo, là. À un moment donné, quand t'en as marqué des buts, là, si tu retrouves ta manière, si tu retrouves ta zone, tu vas être capable d'en remarquer. On va en avoir besoin de Mancosu, même avec l'arrivée d'Amerikwa. Et dans ce dernier droit, ben, je pense que Rémi Garde lui donne encore quelques chances. Au-delà du fait qu'il ne marque pas beaucoup de buts, il est quand même capable de trouver des espaces pour ses coéquipiers. Ça, il n'a pas mal fait de ce côté-là.
Moi, c'est...
Mais en tout cas, je pense que c'est les dernières chances pour Mancosu de se faire valoir parce que malheureusement, c'est pas assez. Et Ameriqua, ben lui, il va, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Jackson, qui n'a pas pu profiter de cette chance sur un plateau d'argent que Mancosu lui a laissé, moi, je pense qu'Ameriqua a l'air d'un gars qui a faim, a l'air d'un gars qui veut et je pense qu'il pourrait saisir cette chance-là.
Oui, définitivement. Là, dès la semaine dernière, on a vu, dès qu'il est entré sur le terrain, qu'il avait un désir de montrer quelque chose. Moi, ce qui me dérange le plus dans le cas de Mancosu, c'est que là, ça traîne depuis très, très, très longtemps. Mais tout est une question de pourcentage dans le monde du sport. Je veux dire, plus que tu tires, plus que tu as des chances de marquer. Et quand tu as seulement 5 tirs cadrés, et il a quand même 3 buts sur ses 5 tirs cadrés, ça veut dire, Matteo, tire! Combien de fois on a vu...
C'est sûr.
Ne serait-ce que dans les 3-4 derniers matchs, des opportunités rêvées. Il est dans la surface, il prend une fraction de seconde de trop avant de tirer. Il est trop tard, il se fait rattraper par le défenseur, perd contrôle du ballon ou il se ferme dans un angle impossible. Il faut tirer, il faut tirer. Et on l'a vu, là, il a marqué un but ici il y a 2 semaines. Il n'a pas pensé, là. Il s'est retourné de bord et il a tiré sans avertissement. Le ballon se retrouve dans le fond du filet. Donc, en tout cas, on va voir ce que ça va donner ce soir dans le cas de Matteo Mancosu. Pour le reste, mesdames et messieurs, c'est vraiment le 11 type là, de l'Impact. Bush devant le filet, les défenseurs de gauche à droite, Lovitz, Camacho, Rod Fanny et Macari Sagna, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les milieux de terrain, Tider, Piette et Krolicki. Et en avant, on a Nacho à gauche avec Silva à droite et Matteo Mancosu devant. Sur le banc pour l'Impact, il y a Clément Diop, le gardien substitut. Yuka Raitala et Chris Duval, donc deux défenseurs latérales, sauf que Raitala, bon, peut boucher un trou en défensive centrale si jamais il y a une blessure ou quoi que ce soit. En milieu de terrain, Shamid Chaume, Michael Azira et Jason Vargas, ainsi que Quincy Ameriqua, le seul attaquant sur le banc. Faut pas oublier non plus, il faut le mentionner aux gens qui nous écoutent, Anthony Jackson-Hamel, toujours ennuyé par ses fameux problèmes aux ischio-jambiers. Et Michael Salazar aussi, il n'est pas en santé, donc c'est pas une option pour ceux qui pourraient penser à cela. Cette semaine, Arcadio, l'Impact a fait une croix sur Nick Dupuis, malheureusement. Ouais. On a décidé de le laisser partir. On l'a placé au balotage, ce grand défenseur qui avait été repêché par l'Impact il y a de ça 2 ans. Je trouve ça un peu décevant. Et pourquoi je trouve ça décevant? Premièrement parce que c'est une grande cible. L'Impact n'a pas vraiment beaucoup d'attaquants de grande stature. Il est jeune. Il avait connu un bon camp d'entraînement au début de la saison dernière. Mais surtout, ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, c'est le fameux problème dont on mentionnait tout à l'heure.
C'est sûr.
Il n'y a pas d'endroit pour le jeune pour qu'il se développe.
Exact.
T'sais, on l'a prêté pendant quelques mois, tant mieux, mais depuis qu'il est revenu, il n'y a pas d'endroit pour qu'il puisse jouer.
Il n'y a pas de place, il n'y a pas de nom. Et en le libérant, ben, on lui donne, alors qu'il reste encore du temps là, pour se trouver une autre équipe, ben, on lui donne la chance. Voilà, c'est comme un peu, on le remercie pour les services rendus, on lui rend un petit service et on lui donne la chance de se trouver un autre club avant que la saison se termine. Mais c'est dommage, comme tu dis, parce que c'est un gars qu'on aurait pu mieux développer, pas nécessairement qu'il aurait mérité plus de chance sur la première équipe, mais avec la présence d'une équipe réserve comme on devrait avoir, comme on avait malheureusement avec le FC Montréal, ben, ça donne la chance justement à des jeunes de cet acabit d'avoir du temps de jeu, d'avoir du temps de compétition et voilà, de mieux se développer et de mieux cadrer dans les plans peut-être potentiels de l'équipe.
Mais ça me surprend parce que, Arcadio, Nick Dupuis, on le laisse partir. Alors, on vient de mentionner que Salazar n'est pas disponible et Jackson non plus. Disons que Matteo Mancosu se blesse. Il n'y a pas d'autre attaquant. Nick était le seul autre attaquant parce qu'Oduro est parti. C'était le seul autre. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de blessure soit à Quincy Ameriqua ou Matteo Mancosu parce que là, il ne resterait qu'un seul attaquant. C'est pour ça que ça me surprend un peu. Est-ce que selon toi, ça veut dire que on laisse partir un gars, on libère une place dans l'équipe et là, ben, tout d'un coup, une acquisition devient possible?
Ben, dans le cas de Dupuis, malheureusement, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle le senior roster. Donc, l'Impact est plein de ce côté-là. Il y a 30 places, dont 20 qui sont des places de senior roster, des places seniors. Et l'Impact a 20 joueurs seniors pour amener un attaquant d'expérience. Il faudra en libérer un. Donc, Dupuis, ce n'est pas le cas. Mais peut-être, écoute, ça, on fait de la place, on libère de la place du moins dans l'effectif des 30.
Ouais.
Et par la suite, on pourrait faire un remaniement, peut-être quelqu'un qu'on pourrait mettre sur une liste des blessés.
Exact.
Il y a toujours toujours moyen de contourner les nombreux règlements de la MLS. L'Impact a plus d'un tour. Les clubs en général ont plus d'un tour dans leur sac à ce niveau. Donc, il faudrait voir. Ce n'est pas, encore une fois, là, on peut signer des joueurs jusqu'au 14 septembre prochain. Ce n'est pas des joueurs, évidemment, qui sont sans contrat. Ce n'est pas impossible que l'Impact ramène du renfort de ce côté-là.
Ben, Rémi Garde l'a dit en point de presse cette semaine. Oui, il est toujours actif. Oui, il est toujours au téléphone. Et oui, il cherche encore un joueur qui pourrait sortir un peu de nulle part et venir ici et aider cette attaque de l'Impact de Montréal. Ceci dit, écoutez, il reste après aujourd'hui, il va rester 8 matchs. Donc, ce joueur va devoir s'adapter extrêmement rapidement. Mais pour moi, c'est clair que l'Impact n'a pas d'autre choix que de continuer à magasiner parce que c'est beaucoup trop mince.
Jérémy, dans le monde du soccer, t'as pas le choix de magasiner tout le temps, même quand les fenêtres sont fermées. Parce que les opportunités, comme Bakary Sagna, c'est une opportunité qui s'est présentée d'une façon X, Y ou Z, mais qui s'est présentée au bon moment. L'Impact était prêt, on a sauté sur l'occasion, mais il faut garder les antennes pointées dans toutes les directions. Et c'est pour ça aussi, quand on parle justement du manque à combler, nous on en parle depuis très longtemps, Jérémy, les gens qui nous écoutent le savent. Et là, ce qui est bien, c'est que Garde en a parlé, Braz en a parlé, quand on parle justement des dépisteurs, d'avoir un réseau qui travaille pour le club et non pas pour eux-mêmes, ben ça permet d'être actif 365 jours par année parce que la planète soccer n'arrête jamais de tourner. Dans un circuit comme la LNH, par exemple, c'est assez fermé. On a 500 joueurs que tu sais qui sont de calibre de la LNH, donc tu magasines, tu vas piger deux fois de temps en temps à l'extérieur, mais c'est assez restreint. C'est pas facile, mais d'avoir, disons, tes antennes sur pas mal tout le monde, c'est pas si compliqué. Dans le soccer, là, ça te prend du monde. Et c'est ça qui manque à l'Impact de Montréal pour être capable de saisir ces opportunités-là quand elles se présentent.
Oui. Au retour de cette pause, on va parler un petit peu des rumeurs qui sont reparties hier en Italie concernant Claudio Marchisio. On va parler aussi de cette rumeur lancée. Écoute, l'Impact a fait la une de la Gazzetta dello Sport cette semaine et du journal L'Équipe. Donc, une fois avec ces rumeurs de Marchisio et une fois avec des rumeurs de Rémi Garde. On va parler de tout ça au retour de cette pause puisque le mercato a beau être terminé, mais les rumeurs continuent de circuler à propos de l'Impact de Montréal qui continue de faire la manchette en Europe. On aimerait ça avoir des journaux de même ici. Ça serait le fun si l'Impact pouvait faire la une aussi souvent à Montréal qu'il le fait en Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. On s'arrête le temps d'une courte pause en direct du Stade Saputo. Vous écoutez l'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal qui reçoit ce soir la visite du Fire de Chicago. Ce beau programme se poursuit dans quelques instants. Nous voilà de retour au stade Saputo pour l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal qui reçoit le Fire de Chicago ce soir. Bastian Schweinsteiger, bien sûr, est dans l'alignement pour Chicago. On vous a parlé de l'alignement de l'Impact tout à l'heure, un 4-3-3. Eh bien, Chicago, ce sera un 3-4-3 qu'on va jouer ce soir. Maintenant, Arcadio, on a parlé avant la pause de ces fameuses rumeurs. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Hier, ça a été confirmé par la Juventus. Claudio Marchisio ne retourne pas avec la Juve. Et là, ben, la technicalité du fait qu'il vient de licencier son contrat fait en sorte qu'il est non disponible pour les équipes de la MLS pour cette saison. Donc, si l'Impact voulait faire son acquisition, ben, ce serait pour la saison prochaine.
À moins qu'on soit capable d'avoir une dérogation de la FIFA. Ce qui n'est pas impossible, mais qui est extrêmement compliqué. Donc,
mais là, Orlando en ont demandé une, si je crois, pour un transfert, et ça a été refusé. Si je ne me trompe pas.
En fait, c'est qu'il faut prouver qu'il y a une entente sur papier avec le joueur avant que son contrat se soit terminé. Donc, je pense pas que ce soit le cas avec Marchisio, ou du moins que les négociations étaient fort avancées. C'est un dossier compliqué. Écoute, on est loin d'avoir ce type d'infos, à savoir si l'Impact était rendu là pour parler avec Marchisio. D'après les médias italiens, il y aurait une offre de l'Impact de Montréal. Mais en même temps, voilà, comme tu l'as mentionné, là, les technicalités font en sorte que, malheureusement, si jamais l'intérêt est là, ben ce sera pas pour cette année là. Il faudrait attendre justement l'année prochaine et ça se complique parce que Marchisio d'ici là, ben il risque d'être fort courtisé et d'avoir envie de. On parle même peut-être du PSG là avec d'aller retrouver son pote Gigi Buffon au PSG, ce serait loin d'être impossible.
Ce qu'on peut vous dire, c'est que Nick DeSantis est présentement en Italie. Maintenant, Il est là avec sa famille. Donc, est-ce qu'il il jumelle travail et plaisir? On ne le sait pas, mais il est là-bas. Est-ce que c'est pour cela que les rumeurs sont ressorties encore une fois à la Gazzetta dello Sport, comme quoi il voulait s'en venir avec l'Impact de Montréal? Écoutez, on verra. C'est sûr que au moment où on se parle, si vous nous posez la question, est-ce que le besoin primaire de l'Impact, c'est un numéro 8? La réponse, c'est non. Sauf qu'on s'entend, Marquisio a tellement d'expérience qu'on pourrait le placer dans une position de semi-numéro 10 et il pourrait faire le travail aussi. C'est pas un joueur qui est nécessairement reconnu pour son attaque en Europe, mais il serait capable de faire le travail. Mais c'est pas un 10, là. C'est pas le 10 qu'on cherche, là. C'est ça que je veux dire, là.
Non, absolument pas. Mais en même temps, quand t'as la possibilité d'amener ce type de joueur-là, ce train-là, ben, passera pas deux fois. Et l'Impact, on sait, là. Ça date depuis quelques mois, plusieurs mois, cet intérêt pour Claudio Marchisio. On s'est déjà parlé. C'est des informations que j'avais eues à l'époque. C'était autour du mois de janvier dernier, là. Il y avait eu de l'intérêt de l'Impact et des pourparlers qui avaient été lancé avec le clan Marchisio. Donc, c'est pas nouveau, mais ce type de joueur-là, comme tu l'as mentionné, là, pourrait me donner un solide coup de main au milieu de terrain.
Ben oui.
Avec un Marchisio, par exemple, si cette année, l'Impact de Montréal avait amené, par exemple, Jimmy Briand et avait un Claudio Marchisio dans l'alignement, l'Impact pourrait non seulement être, disons, desserré, mais serait une des équipes candidates, là, selon moi, à faire un très beau parcours. Donc, ça donne une idée d'à peu près de ce qui manque à l'Impact de Montréal pour être, disons, parmi les favoris là, dans l'Est.
C'est certain que dans le cas de Marchisio, s'il attendait au mois de janvier pour se joindre à l'Impact, au camp d'entraînement, ben, ça ferait en sorte que lui n'aurait pas joué depuis le printemps. Donc, c'est peu probable qu'un joueur à 32 ans accepte de passer 7, 8, 9 mois sans jouer. Certains nous posent la question sur les médias sociaux. Est-il possible pour l'Impact de le signer via Bologne et de le transférer ici l'entre-saison prochaine? Pas impossible. Ça se fait. Ça pourrait se faire.
Très faisable. Marchisio, lui, par exemple, lorsqu'il est parti de la Juve, lui a passé 25 ans à la Juve depuis qu'il est petit. D'ailleurs, la photo qu'il a mise sur les réseaux sociaux...
Ouais.
Pour annoncer sa retraite, son départ de la vieille dame, c'était lui avec le maillot mythique de la Juve, avec le sponsor Sony du début des années, milieu des années 90, alors qu'il était un gamin. Et il disait que c'est ça fait 25 ans qu'il est au club, il passe à autre chose, il tourne une page historique.
Donc,
il ne veut pas jouer pour un autre club de la Serie A, il ne veut pas évoluer pour un club rival de la Juventus. Peut-être dans le cadre, justement, dans un contexte où il jouerait une demi-saison pour se remettre en forme et ensuite s'en viendrait relever un nouveau défi dans un autre continent, peut-être qu'il l'accepterait. Et ça serait, je pense, passez-moi l'anglicisme, mais un win-win situation pour tout le monde.
Oui, absolument. Écoutez, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Marchisio. Une chose qui est claire, on peut pas compter sur lui pour une arrivée cette année, ça c'est certain. Maintenant, on va parler un petit peu de Rémi Garde, étant donné que de l'autre côté, eh bien, en France, il y a un autre journal, l'Équipe cette fois-ci, qui fait la une avec Rémi Garde, entre autres, parce que du côté des Girondins de Bordeaux, on est à la recherche d'un nouvel entraîneur, nous dit-on, et Rémi Garde ferait partie des candidats. Maintenant, c'est certain que si, à la fin de la saison, Rémi Garde disait « Moi, je quitte, je ne pense pas que Joey Saputo aurait beaucoup de choix que de le laisser partir. » Quand quelqu'un veut quitter, ben écoutez, on a vu ce que ça a donné avec Didier Drogba alors qu'il voulait quitter, puis finalement, on l'a retenu ici. Je pense pas que c'est dans l'avantage de tout le monde de faire cela. Ceci dit, je serais assommé que Rémi Garde quitte dès maintenant à l'Impact de Montréal pour se joindre aux Girondins de Bordeaux. Pour moi, ça serait un non-sens. Je pense que Rémi Garde est un homme qui va vouloir se rendre au bout du défi au moins de cette saison. Ensuite de ça, assurément qu'il prendra une décision. Est-ce que les Girondins vont embaucher quelqu'un d'autre entre-temps? Je ne sais pas. Mais
moi, personnellement, Jérémy, je suis convaincu, même si les Girondins n'ont pas trouvé quelqu'un, même s'il était le premier choix des Girondins de Bordeaux, connaissant l'homme qu'on apprend à connaître depuis qu'il est arrivé ici à Montréal, sa philosophie, sa façon de voir les choses, Rémi Garde, c'est quelqu'un qui travaille sur la durée. C'est la philosophie de la maison lyonnaise, de là où il est né footballistiquement parlant, de l'OL. On développe sur la durée. Lui, il est venu, il a changé de continent, il a changé de ligue, de continent. Oui. Il a amené son staff, ses hommes. Il est en train de bâtir quelque chose ici, Rémi Garde. Ça commence à aller bien. Là. On voit le travail qui commence à porter des fruits.
C'est vrai.
Et je pense qu'il est à 100% investi dans son travail à Montréal. C'est vrai que c'est très tentant. Les Girondins, c'est un des grands clubs, un des clubs historiques en France. Mais en même temps, je pense que Rémi Garde est très focusé sur son présent ici à Montréal, en MLS. Et je serais extrêmement surpris, mais je mettrais ma main au feu que Rémi Garde, même s'il était le premier choix d'ailleurs des Girondins, c'est Thierry Henry. Mm-hmm. Selon l'équipe, là, c'est le candidat numéro un qu'on essaie d'aller recruter. Mais même si Rémi Garde était le numéro un, je pense pas qu'il serait intéressé à y aller. N'oublions pas non plus que Gustavo Poyet, l'entraîneur sortant des Girondins de Bordeaux, l'ex-international uruguayen,
ouais,
est parti en claquant la porte,
ouais,
avec,
ouais,
une conférence de presse du tonnerre. Il, ouais, a accusé le président d'avoir vendu un de ses joueurs sans l'avoir averti à un rival, qui plus est, un rival direct. Donc voilà, c'est le bordel chez les Bordelais, là, passez-moi le mauvais jeu de mots, mais c'est vrai. Et je pense pas que Rémi Garde voudrait aller mettre son nez là-dedans. Selon moi, ça irait à l'encontre de tout ce qu'on connaît du personnage.
Oui, ça c'est certain. Maintenant, écoutez, je pense que Rémi Garde aussi, depuis qu'il est à Montréal, il a compris certaines choses. Hein. Il nous a parlé à plusieurs reprises de la complexité d'amener des joueurs ici. Je pense qu'il réalisait peut-être pas, lorsqu'il a signé avec l'Impact, à quel point ce serait compliqué d'amener les joueurs que lui voulait avoir à Montréal. Il y a toutes sortes de mécanismes qui font en sorte que c'est compliqué. Le TAM, le GAM et tout cela, les papiers internationaux. Donc, je pense que pour lui, il y a peut-être des choses qu'il se rend compte et il se dit, c'est pas ce à quoi je suis habitué. C'est plus compliqué. En tout cas, on verra là, durant l'entre-saison s'il y aura... si les rumeurs vont persister, si Bordeaux, entre-temps, va embaucher un autre entraîneur. Mais au moment où on se parle, je pense que Rémi Garde est bien en selle. Et puis, je pense qu'il serait très mal vu aussi comme entraîneur. Il y en a qui sont partis. Hein? Écoute, on regarde Patrick Vieira est parti du New York City. Mais bon, il l'a fait quand même au milieu de la saison. Donc, c'est pas comme si ça n'arrive pas. Mais en pleine course aux séries, disons qu'il placerait l'organisation de l'Impact dans une situation extrêmement délicate. Et je pense pas que ce serait bien vu non plus dans le monde du soccer de voir un entraîneur quitter comme ça à ce moment-là de la saison. Il y a un joueur chez le Fire de Chicago, Arcadio, qu'on va reconnaître, que les amateurs de l'Impact vont reconnaître. Il s'appelle Raheem Edwards.
Ouais.
Raheem Edwards sera du 11 partant ce soir. Ce sera son 5e départ avec le Fire de Chicago depuis que l'Impact l'a vendu pour 400 000 $ d'allocation. On s'en souvient. Edwards a une passe depuis son départ, ouais, avec le Fire de Chicago.
C'était à son premier match, d'ailleurs, avec,
ouais,
le Fire.
Et assurément que Raheem Edwards aura mis quelques billets sur le tableau ce soir là, pour espérer voir son équipe battre... son ancien club.
Ben écoute, du côté du Fire, là, on doit chercher la motivation n'importe où. Là.
Ouais.
Tous les moyens vont être bons. On a 7 défaites consécutives. Là. 7 défaites à leurs 7 derniers matchs. Et ils viennent ici à Montréal. Ils ont eu un meeting d'équipe au cours de la semaine. Ils ont un peu crevé l'abcès d'après ce qu'on a compris. Donc peut-être qu'ils vont arriver avec un état d'esprit renouvelé. Peut-être que ça va leur faire du bien.
Mais
en tout cas, c'est une équipe qui ne va pas bien. Et voilà, ça pourrait être une source de motivation supplémentaire.
Il va falloir le surveiller. Hein, parce que
l'ancien club d'Edwards.
Raheem là, va vouloir prouver à Rémi Garde qu'il n'aurait pas dû le laisser,
c'est
sur,
vrai,
le banc aussi souvent.
Absolument.
On s'arrête le temps d'une courte pause. Les nouvelles suivront. Et ensuite de ça, une petite entrevue effectuée par Derek Aucoin avec le nouveau défenseur de l'Impact, Bakary Sagna. Alors, voilà de retour au stade de Saputo pour l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact qui ce soir reçoit la visite du Fire de Chicago. Plus tôt cette semaine, notre collègue Derek Aucoin a eu la chance de s'entretenir avec le nouveau défenseur de l'Impact de Montréal, Bakary Sagna. On écoute ça immédiatement.
Bakary Sagna, bonsoir.
Bonsoir.
Comment se passe votre première semaine à Montréal?
Ben, très, très bien. Je prends mes marques petit à petit. J'ai découvert le groupe, j'ai découvert le club et ben, je suis assez satisfait d'avoir fait ce choix-là. Je veux dire, c'est exactement à quoi je m'attendais. En ayant parlé au coach en ayant parlé à plusieurs joueurs avant mon arrivée, j'avais une bonne image du club et j'avais une bonne image de la ville de Montréal et je suis agréablement surpris.
Donc, jusqu'à maintenant, ça rencontre vos attentes? Ça surpasse vos attentes?
Oui, exactement. Après, mes attentes, elles sont pas énormes. Je voulais juste prendre du plaisir. J'ai suivi mon cœur, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, et voilà, je suis là aujourd'hui.
Vous avez eu une grande carrière en Angleterre avec Arsenal et Manchester City. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre maintenant en MLS?
L'amour du foot. L'amour du foot. Je veux dire, j'ai la chance aujourd'hui d'être là. Je sais que c'est un championnat qui me plaît. Je sais que pas mal de joueurs européens ont envie un jour de rallier la MLS. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je sais que c'est une confiance qu'on m'a accordée en faisant un signe ici. Et j'ai envie de rendre cette confiance-là. Et quoi qu'il en soit, comme je dis, j'ai toujours joué avec mon cœur et avec l'envie. Et c'est ce que je vais essayer de donner au club.
L'entraîneur-chef Rémi Garde mentionne Bakary Sagna qu'il pourrait vous utiliser le plus vite possible selon vos discussions et comment ça se passe à l'entraînement. Est-ce que après quelques jours, est-ce que vous vous sentez prêt, vous, pour embarquer dans l'action samedi?
Oui, j'ai fait le maximum pendant ce mois-ci, après la fin du championnat, pour rester en forme du mieux possible. Je me suis entraîné de mon côté. J'ai la chance maintenant de découvrir mes partenaires depuis 2 ou 3 entraînements. Donc, je pense que la communication, c'est la clé. Et quoi qu'il en soit, je fais le maximum pour me tenir prêt si jamais coach a besoin de moi.
Vous avez eu la chance de vous entretenir avec Didier Drogba. Ça a été très médiatisé, comme quoi qu'il vous avait bien parlé de Montréal, de son expérience à Montréal. Parlez-moi de votre relation avec Didier Drogba.
Ouais, c'est un petit peu comme un grand frère pour moi. J'ai eu l'occasion de le continuer à plusieurs reprises dans le championnat anglais. Et voilà, maintenant je sais qu'il a apprécié son temps ici, je sais qu'il a marqué un petit peu l'histoire du club, et je sais qu'il a été influent. Donc voilà, c'est un petit peu c'est pas que je suis aujourd'hui, et avant de me rendre ici, je cherchais à le rendre ici pour avoir son impression. J'ai eu l'occasion de parler à Rod, j'ai eu l'occasion de parler à Clément Diop aussi qui a rallié le club au mois de janvier, et j'ai eu que des bons retours. Donc je m'attendais à un club familial, c'est ce que je le crois aussi. Donc, comme je l'ai dit, je suis content d'être ici.
Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que Didier vous a mentionné? Est-ce que c'était le club, le propriétaire, le stade, les partisans? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qu'il avait mentionné?
Tout sur le club. C'est-à-dire sur la manière dont fonctionne le club. Ici, je suis un club, je suis une personne assez familiale. Je suis au Auxerre. En France, je joue à Arsenal, là où j'étais un petit peu chez moi, et il sait qu'ici, les gens nous traitent bien, et voilà, donc je suis très très heureux d'avoir écouté leurs conseils et d'avoir fait ce choix-là.
Est-ce que ça a été un choix facile pour vous à ce moment-là? Parce que l'entraîneur Rémi Garde avait mentionné que si Bakary Sagna avait fait un choix avec sa calculatrice, ça n'aurait probablement pas été avec l'impact de Montréal qui serait venu. Alors, est-ce que ça a été un choix facile? Parce que vous avez fait votre lot d'argent, vous, déjà, dans les grandes ligues. Là, vous avez l'amour du foot, vous voulez poursuivre, mais quand même, comme professionnel, c'est un choix difficile de prendre moins d'argent pour vous amener ici?
Pas du tout. Comme je dis, mon cœur, le choix financier n'a pas du tout compté pour moi. Je veux dire, je marche au feeling. J'ai eu un grand feeling avec le coach et voilà, j'ai senti une onde positive autour du club. Donc voilà, j'ai suivi mon cœur et j'ai suivi mes sentiments. Maintenant, le financier, c'est une part différente. À mon âge, et voilà, je pense plus à prendre du plaisir et voilà, et à essayer d'apporter mon expérience et de profiter un maximum lorsque je serai amené à jouer.
Lorsque Didier Drogba était ici, Bakary, il avait mentionné la qualité des installations pour les pratiques et tout. Vous avez eu la chance de fouler le terrain au centre Nutrilait. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus de l'organisation, du centre d'entraînement, des coéquipiers, des entraîneurs? Est-ce que tout ça, c'est première classe?
Non, c'est un club très structuré. Je veux dire que ce soit au niveau des installations ou même au niveau de l'aide familiale dont on bénéficie. Je veux dire, tout est fait pour qu'on se sente mieux le plus tôt possible, et que ce soit son entraînement, même en dehors de ça, tout est structuré et on a tout ce qu'il faut pour se sentir le mieux et être le plus performant possible.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, les dernières journées à l'entraînement, l'atmosphère autour du club, c'est un peu à la fête. Pas que vous vous amenez comme sauveur, mais votre arrivée à Montréal, votre arrivée maintenant à l'entraînement, à quelques jours d'un match très important, les gens sont très heureux de vous avoir là. Est-ce que vous ressentez que vous avez eu cet impact-là déjà en quelques jours?
Non, pas du tout. Je m'efforce d'aller à l'entraînement. Après, je lis un petit peu les commentaires sur les réseaux sociaux, mais je n'y tiens pas beaucoup d'importance. Par contre, je tiens une grande importance à essayer d'être performant sur le terrain et essayer d'aider les clubs du mieux possible. C'est ce qui compte pour moi aujourd'hui. Maintenant, si les gens sont heureux, je suis content pour eux aussi.
je pense les coéquipiers et l'organisation l'est également. Évidemment, Rémi Garde aura le mot final avec son personnel d'entraîneur. Si c'était de vous, Bakary Sagnan, est-ce que vous avez vos premières minutes au Stade Saputo samedi?
Moi, je me sens prêt. Comme je dis, j'ai énormément travaillé de mon côté. Maintenant, le travail en équipe ne remplace pas le travail individuel ou isolé, c'est sûr. Mais comme je dis, j'ai profité des quelques jours dont j'ai bénéficié là maintenant avec l'équipe et les quelques jours restants, des 2 jours restants pour apprendre à connaître mes partenaires. Et comme je dis, la clé, c'est la communication. Et j'essaie de communiquer avec tout le monde. J'ai la chance de parler plusieurs langues aujourd'hui. Et donc, je peux communiquer avec tous les joueurs et apprendre à les connaître aussi. Et je pense que c'est très important aussi, mais la clé, c'est la communication.
Et il y avait déjà des joueurs que vous connaissiez. Il y avait plusieurs joueurs dans l'équipe que vous connaissiez déjà. Donc, ça aussi, ça rend les choses un petit peu plus faciles.
Oui, exact. Il y a Clément Diop, que je connais par rapport à ses origines. Il joue pour l'équipe du Sénégal. C'est un membre du Sénégalais. Il a grandi en France. C'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Il y a Rod Fanny, avec qui j'ai évolué plusieurs années en équipe nationale, en équipe de France aussi. Donc, j'ai eu de longues minutes au téléphone avant de venir ici. Et voilà, comme je dis, je suis très, très, très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis fier de porter les couleurs de l'Impact et je vais les défendre du mieux possible.
Et numéro 33, est-ce qu'il y a une importance à ce numéro-là?
J'avais le numéro 3 à Arsenal, le numéro 3 à City. Et ensuite, dans mon club italien, j'ai le 83. Il y a toujours un 3 dessus.
OK.
Donc voilà, c'est un chiffre que j'aime beaucoup.
Bakary Sagnan, merci beaucoup. On vous souhaite la bienvenue à Montréal. C'est toujours un privilège d'avoir des grands joueurs comme vous qui choisissent de venir continuer leur carrière et leur amour du foot à Montréal. Merci. On espère vous voir au moins pendant quelques minutes samedi dans un match très important pour le 11 Montréalais. Merci d'avoir pris le temps ce soir.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Alors voilà, Bakary Sagnan avec Derek Aucoin, soit dit en passant, pour ceux qui n'y étaient pas plus tôt dans l'avant-match, Bakary Sagnan est partant ce soir, dans le 11 partant pour Rémi Garde. Donc, on aura la chance de le voir pour la première fois sur le terrain du stade Saputo. Pendant qu'on vous parle, eh bien, les joueurs des deux équipes s'échauffent sur le terrain. Ça va se terminer très bientôt. On va faire une petite pause. Au retour de ceci, on va faire un tour de ce qui se passe ailleurs dans la MLS. Il y a plusieurs autres matchs. D'ailleurs, on surveille du coin de l'œil Vancouver contre les Red Bulls de New York. Ça vient tout juste de commencer. Il y a d'autres matchs aussi qui concernent l'Impact de Montréal, dont on va suivre durant la soirée. Donc, petite pause et on vous revient, Arcadio Marcuzzi et moi-même, Jérémy Filosa, après ceci. De retour au stade Saputo et pendant qu'on surveille du coin de l'œil, les Red Bulls viennent tout juste de marquer contre les Whitecaps de Vancouver à la 5e minute de jeu. Donc, je crois que c'est Bradley Wright Phillips qui a marqué. En tout cas, on y reviendra. Le match de l'Impact qui va débuter dans approximativement, je vous dirais 18 minutes. Alors qu'on voit Michael Salazar et Carl Fisher passer devant nous. Soit dit en passant, Arcadio, Carl Fisher n'a toujours pas joué de minute avec Ottawa. On l'avait prêté il y a 3 semaines. On disait qu'il était en conditionnement. Je ne sais pas s'il y a eu mésentente entre Ottawa et Montréal ou
Ottawa...
s'il y a eu un petit pépin entre-temps. Là,
ben, mais... On sait qu'Ottawa, eux, ils ont leur joueur, leur club. Si ça va bien, l'entraîneur ne va pas changer sa formule pour faire plaisir à l'Impact, malheureusement.
Non, mais on nous avait quand même dit que Fisher était parti à Ottawa, qu'il allait jouer des minutes. Ouais. Je ne sais pas si la situation a changé depuis ce temps-là.
Peut-être.
Mais là, Fisher... Avoir... Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est prêt à jouer. Là.
Ce qui est dommage, c'est ça. C'est qu'on n'a pas le contrôle sur cette entente. Hein.
On revient toujours à la même histoire.
C'est pas idéal. Donc, voilà.
Écoute,
on a un gros manque à combler avec cette absence d'équipe réserve. C'est encore une fois le même refrain.
Moi, je vais le dire. Là. Moi, je pense que Joey Saputo devrait contacter M. Jacques Tanguay à Québec avec un stade, le Peps, qui est déjà prêt. Mettre une équipe... numéro 2, l'équipe 2 de l'Impact à Québec, là-bas, et dire à M. Jacques Tanguay, regardez là, voici, notre équipe va jouer chez vous. Nous, tout ce qu'on veut, on ne veut pas perdre d'argent avec ça, comme c'était le cas avec le FC Montréal. Si tu fais des profits, tu t'organises avec, tant mieux pour toi. Et on offrirait du soccer de haute qualité à la ville de Québec. Puis je suis certain qu'il y aura probablement des partisans qui se déplaceraient pour y aller. En tout cas, moi, je pense que c'est la solution idéale. On verra
bien. Québec,
en
même temps, ils auraient tout intérêt à se joindre à la CPL, la Ligue. Et la CPL ne veut pas de club réserve de la MLS.
C'est vrai. C'est un ou c'est l'autre.
C'est un ou c'est l'autre. Il faudrait qu'ils aillent en USL, par exemple. Donc, il faudrait voir. Mais c'est vrai que c'est une option intéressante.
Arcadio, parlons un petit peu de ce qui se passe ailleurs dans la MLS. Toute une semaine pour Wayne Rooney et le DC United.
Wow.
Écoute, les images de Wayne Rooney dans la dernière semaine, notamment... le but qu'il a préparé pour Acosta. Et sur la séquence, là, écoutez, DC United, c'est 2-2. Il retire le gardien.
Ouais.
Ils envoient le gardien devant. Donc, c'est clair, là, DC United, c'est victoire ou rien. Là. Et ça sera comme ça, match après match après match. Et il a fait un jeu absolument incroyable, Wayne Rooney, pour permettre à Acosta de compléter le tour du chapeau. Mais encore une fois, cette semaine, un doublé plus tard dans la semaine qui a permis au DC United de gagner encore une fois son match contre Portland. Ils sont vraiment sur une lancée, DC United. Ouais. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu ici lorsque Didier Drogba est arrivé.
J'allais dire exactement la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Ben écoute, c'est un... une idole du soccer international qui débarque dans une équipe qui lui manquait ça, qui lui manquait un peu le
ça fait longtemps que DC United n'a pas été sexy là.
Ben oui, puis sportivement parlant aussi, ça lui manquait un peu de cette énergie qui est venue insuffler Wayne Rooney aussi. On se souvient quand Didier Drogba est arrivé ici là, on a vu un changement drastique au niveau justement de la préparation, les entraînements. Vous voyez les gars s'appliquer plus juste parce que Drogba était là, ça change la donne, la qualité sur le terrain, évidemment, on le voit tout de suite, la qualité des passes, la qualité des touches. Et Wayne Rooney apporte ça. Et DC United est sur une belle lancée. Ils ont beaucoup de matchs en main, 4 matchs en main sur l'Impact notamment. Ils vont jouer presque tous leurs matchs, si je ne m'abuse. Il leur reste une douzaine de matchs. Ils vont jouer au moins 10 matchs à domicile.
Ouais.
Donc, ils ont tout pour réussir, tout pour rentrer dans les séries par la grande porte. Donc, de ce côté-là, on voit tout l'apport. Et comme on l'a mentionné, tu l'as si bien dit, Philo, c'est Drogba-esque qu'est-ce qu'il est en train de réaliser en MLS. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance d'amener ce type de figure. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça de manière très négative, qui se disent « amener des gars ». Écoute, l'un n'empêche pas l'autre.
Exact.
Si tu amènes un gars comme Rooney, si tu amènes un gars comme Drogba, ça n'empêche pas d'amener des gars comme Joseph Martinez, ça n'empêche pas de faire du bon recrutement de jeunes, ça n'empêche surtout pas de développer tes jeunes. Au contraire, ça aide le développement des jeunes.
Ouais.
Des Didier Drogba, des Wayne Rooney qui arrivent ici, qui jouent avec les jeunes que tu es en train de développer dans ton club, les jeunes locaux. Ben, ça aide. Donc, de ce côté-là, ça prouve encore une fois tout le bien fondé d'amener ce type de star ici à MLS.
Ben, écoute, moi, Arcadio, je pourrais pas être plus d'accord avec toi parce que c'est pas seulement ce qu'ils font sur le terrain, mais les images qu'on a vues cette semaine, elles ont fait le tour de la planète.
Philo, le tour de la planète. J'ai retweeté, je regardais le match. Je suis resté la mâchoire qui me pendait à terre quand j'ai vu ce jeu-là. J'ai retweeté la vidéo. Quelques minutes plus tard, la MLS la met sur Twitter. Je retweete la vidéo, je mets Wayne Rooney, legendary. 3 mots. Je tweete ça, mon tweet est parti viral. J'ai jamais eu un tweet qui a eu autant de
portée.
2500 retweets, 7500 likes. Écoute, c'est en Argentine, partout dans le monde, des gens de partout dans le monde ont vu ce que Wayne Rooney a fait. C'est incroyable et c'est bon pour la Ligue.
Oui,
c'est bon pour la Ligue.
C'est bon parce que combien de joueurs on a entendu? Prenons l'exemple de Montréal. Nous, on est à Montréal. Combien de joueurs depuis 2 ans sont arrivés ici et nous ont dit « Ah, ben Didier Drogba, et j'ai parlé à Didier, j'ai vu Didier. » Donc,
bien sûr.
Peut-être que ces gars-là ne sont plus très jeunes, mais eux vont faire écarquiller les yeux de tous les joueurs de soccer sur la planète et tout d'un coup, ben écoute, regarde, on parlait de DC United, là, entre vous et moi, là, l'année passée, là, alors que DC United jouait dans son misérable stade qui tombait en morceaux et tout cela, quel joueur de soccer sur la planète avait le goût d'aller jouer à DC United? Personne. Mais là, regardez ce que ça va faire pour DC United cette année et pour les années à venir, alors que Wayne Rooney va mettre DC United sur la map, là, dans le fond. Là.
C'est sûr. DC United, c'est le premier champion de la MLS. Le premier champion MLS. C'est une équipe historique de cette jeune ligue.
Oui.
Et évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, depuis plusieurs années, depuis plus d'une décennie, c'est une équipe qui n'était pas sexy, qui ne s'était pas mise à jour avec les avancées et l'évolution de cette ligue.
Oui.
Et aujourd'hui, avec son nouveau stade, avec un projet sportif qui se tient, avec la venue de Wayne Rooney, est en train de se mettre à jour, de se updater. Et ça va vite en MLS.
Ça va très vite.
Ça va très vite, avec quelques investissements intelligents, avec quelques bonnes signatures, avec une vedette comme planétaire comme Rooney ou comme un Drogba. On peut changer la donne rapidement et se mettre sur la map, non seulement dans la Ligue, mais au niveau planétaire.
Oui, en tout cas, c'est assez fantastique. Bon, de l'autre côté, parlons un petit peu du Toronto FC qui a gagné le championnat canadien cette semaine.
Mettez-moi
pas.
Hein?
Mais, oui, ça fait mal.
Moi, ça m'a fait. J'ai discuté avec des gens sur Twitter. Excuse-moi de
oui.
t'interrompre.
Non, vas-y.
Moi, j'aime pas voir Toronto gagner. Toronto FC, c'est pas un club que j'apprécie. Ils font très bien les choses. Je donne à tout seigneur, tout honneur. Mais je n'aime pas les voir gagner. Et quand je les vois gagner de manière aussi facile, face à des Whitecaps qui ont été exécrables, il faut dire. Et se dire que l'Impact a joué contre cette équipe-là, là, il y a quelques jours,
il y avait tout
pour les battre et
ils l'ont pas fait.
Ça fait doublement mal.
Exact.
Et ça, malheureusement, je pense que c'est une épine dans le pied de beaucoup, beaucoup de supporters. Et ça, ils vont en tenir rigueur au club pendant longtemps.
Oui, t'as raison. C'est pas seulement la présence du Toronto FC en finale et le fait qu'ils ont gagné, mais comment l'Impact a géré cette compétition-là qui me fait doublement mal. Ceci dit, une fois rendu en Ligue des champions, il représente tout de même le Canada. Et en tout cas, j'aime mieux voir le soccer canadien évoluer que le soccer dans un autre pays, ça c'est certain. En tout cas, on va les revoir en Ligue des champions encore une fois au printemps prochain. Mais ce que je voulais dire, c'est que le Toronto FC est allé gagner le championnat canadien et le Toronto FC pourrait encore se qualifier. Moi, je ne serais pas surpris qu'il se qualifie pour les séries de la MLS. Donc, quand on dit on ne peut pas jouer sur 2 tableaux, ben le Toronto FC, là, ils l'ont gagné le maudit championnat canadien.
Ah ouais.
Et là,
ils sont dans la course.
Et là, ils vont se mettre en 5e vitesse.
Et ça va leur servir d'élément de motivation.
Bien sûr,
tu gagnes un championnat comme ça en plein milieu d'une saison MLS ou en plein milieu d'une course aux séries. C'est sûr que ça sert d'élément de ralliement. Donc, encore une fois, une double chance manquée pour les Montréalais alors que c'était bien parti. En fait.
Je vais donner un exemple. Disons que tu te rends à la fin de la saison. Puis je vais dire n'importe quoi. Disons que tu dois renégocier avec Michael Bradley. Tu désires le garder. Mais, il a des options ailleurs. Mais tu as toujours l'argument de dire, Michael, on retourne en Ligue des champions. Viens, ça va être le fun, ça va être plaisant. Et là, le joueur va peut-être dire, mais moi, j'ai le goût d'aller la revivre, cette compétition, la Ligue des champions.
Non,
je vais demeurer avec le Toronto FC.
Et pour des signatures prochaines aussi, pour des gars qui veulent venir en MLS. Que, OK, ben nous, on joue ça, on va jouer au Mexique, on va jouer contre des clubs américains. Tu vas connaître le championnat. Pour un joueur, c'est excitant. Les joueurs ne vivent que pour ça.
Exact.
Vivent pour gagner des titres, pour jouer sur les tableaux internationaux. Et ça rend un club sexy, malheureusement.
Ouais.
Et on l'a vu, aux yeux des partisans aussi. Quand l'Impact de Montréal a fait son parcours historique en Ligue des Champions en 2015, on le répétera jamais assez, la ville était soccer.
Absolument.
Et c'est pas un cliché, c'était vrai. Et si on faisait ça de manière plus régulière, si on donnait plus d'importance au championnat canadien, ben écoute, il y aurait plus de billets de saison vendus, il y aurait plus de gens qui seraient mordus de soccer. Écoute, l'Impact de Montréal, on en parlait tout à l'heure, Jérémy, l'Impact de Montréal, c'est pour rien pour enlever, pour cracher sur aucun autre sport, rien. Mais de par la nature du soccer, de par sa nature globale, en 6 ans, 7 ans de MLS, l'Impact de Montréal a fait rayonner Montréal, le Québec, à travers la planète, beaucoup plus que n'importe quelle autre équipe montréalaise depuis leur début. C'est normal, c'est pas de la faute des autres, c'est parce que le soccer te permet de faire ça.
Exact.
Mais l'Impact de Montréal, malheureusement, n'en a pas assez profité.
Oui, t'as raison de le mentionner, puis vous savez, regarde, on se comptera pas d'histoire, l'Impact a été assez transparent, ce club-là n'est toujours pas rentable dans sa 6e année MLS, mais on voit ce que ça donne quand l'équipe joue en Ligue des Champions. On met dans le stade olympique 40, 50, 60 000 personnes qui assurément seront prêtes à payer même un petit montant supplémentaire pour venir voir ces matchs prestigieux-là. Alors qu'au stade Saputo, disons la vérité, c'est quand même difficile. J'espère qu'on va faire ça le comble ici ce soir-là. Je ne pense pas que ce sera le cas, malheureusement. On risque d'avoir encore une fois 19 000, 20 000. Mais vous voyez la difficulté qu'on a en saison régulière MLS de remplir le stade malgré des prix de billets qui sont quand même raisonnables comparativement à la Ligue des Champions où, comme tu l'as dit tout à l'heure, écoute, je me souviens, le matin de la finale de la Ligue des Champions contre Club América, je suis allé faire mon jogging ce matin-là comme je fais souvent et je vois un autobus de la STM avec, dans son écriteau, c'était écrit « Go Impact Go » et là j'ai dit… Ouais. Comme tu dis, la ville est soccer. Exactement. Donc, il faut en profiter de ces moments-là. Et là, ben, malheureusement, pour une 3e année consécutive, c'est Toronto qui va y aller.
Et tu sais quoi? Autre chose qui est encore une fois extrêmement importante par rapport à la Ligue des champions, par rapport à jouer, à se promener en CONCACAF, c'est les contacts aussi qu'on fait avec les autres clubs.
Absolument.
On recrute, on dépiste des joueurs.
Johan Venegas.
Johan Venegas, ça n'a pas été l'expérience la plus concluante, mais quand il est venu ici, c'était excitant. C'était une belle signature. Ça n'a pas marché en MLS, mais... ça donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire. On parle avec les autres présidents, les autres directeurs généraux. On parle avec des joueurs, on se fait des contacts. Et ça, l'Impact de Montréal, malheureusement, encore une fois, ne le cultive pas assez. Et c'est un gros manque à combler.
Arcadio, je ne sais pas si tu as remarqué cet après-midi, là, Seattle a battu le Galaxy de Los Angeles 5-0. Aïe, aïe,
aïe, aïe.
Rien ne va plus chez le Galaxy.
Non.
C'est une période très difficile pour eux.
Et c'est dommage parce que Zlatan, il fait des merveilles, mais malheureusement, le reste... Ne suit pas. D'ailleurs, j'avais mis Zlatan comme capitaine sur mon équipe de MLS Fantasy. Ça n'a pas été très payant aujourd'hui.
Bon, non, c'est ça. Dans les autres matchs dont on vous a parlé tout à l'heure, donc les Red Bulls mènent 1-0 à Vancouver face aux Whitecaps. Et dans l'autre match qui nous importe beaucoup aussi, Philadelphie et New York City, c'est 0-0 à la 22e minute de jeu. On va continuer de vous garder informés pour ce qui est de ces matchs-là, bien sûr, puisqu'il y a une incidence sur le classement. On vous le rappelait hein, tout à l'heure, il reste 9 matchs à l'Impact en fin de saison, et ce sont tous contre des rivaux de la division Est de la MLS. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause, mesdames et messieurs. Et au retour de ceci, on aura les alignements partants et le début du match entre l'Impact de Montréal et le Fire de Chicago.